Culture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Après avoir accueilli en particulier dans les émissions précédentes Olivier Houdet, qui pour décrire l'apprentissage a élaboré une théorie révolutionnaire et qui est de plus en plus présente, et dans notre vie, nous n'en rendons pas compte, et cet apprentissage nous concerne toute la vie. Donc je vous invite encore une fois à lire le livre d'Olivier Houdet, le dernier, « Apprendre à résister ». Je vous rappelle qu'Olivier est présenté à juste titre comme le Piaget du XXIe siècle. Nous avons reçu aussi trois nonagénaires, l'un de Paris, l'autre de Corrèze et la troisième de la Dordogne. André Peretti, Geneviève Callerot, qui sont tous les deux, depuis cette émission, entrés dans leur 90e année, et Marcel Conche, 93 ans, l'un des philosophes à la fois les plus classiques et les plus originaux de notre époque. Je cite la dernière phrase de son très beau livre Épicure en Corrèze. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Voici sa dernière phrase. « Au fur et à mesure où je me rapproche vraiment de la mort, le fait d'être encore dans ce monde a un goût plus fort. Je goûte la vie comme jamais je ne l'ai goûtée et j'ai toujours autant de plaisir au travail. » Quelle belle expression pour chacun d'entre nous. Alors, cette fois, nous revenons dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est composée en fait de trois sous-ensembles, la Côte d'Azur, la Provence et les Alpes, chaque sous-ensemble ayant deux départements. Nous avons recueilli pour cette émission, en particulier, un auteur, une femme, dont je vais vous parler dans un instant. Mais avant, je vous invite, si vous voulez connaître les auteurs, les éditeurs, et plus largement tout ce qui se passe autour du livre dans la région PACA, eh bien, allez sur le site Agence Régionale du Livre, PACA. Et si vous êtes dans une autre région de France, eh bien, faites Agence Régionale du Livre et vous mettez votre région. Et là, vous avez un site d'une extrême qualité, un instrument de travail permanent et une base de données incomparable. Vous allez y découvrir les derniers livres qui sont parus dans la région. Vous allez y découvrir la liste des éditeurs de la région. Une base de données en tout, des manifestations, que sais-je. C'est vraiment le site de référence. Alors, je vous le recommande en priorité absolue. Un très très bel outil de travail. Alors, parmi les ouvrages récents que nous avons reçus dans notre région, de notre région, nous avons choisi celui de Corinne Augier-Richard. Son titre, « La lumière par le mystère de la croix », nous a passionnés. Bonsoir Corinne.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs d'Agora.
Merci Corinne d'être en studio pour nous présenter ce livre. Mais si vous voulez, d'abord nous allons écouter une musique que vous avez vous-même choisie, celle de Billy Paul, « Sans toi ». Pourquoi cette musique ?
Cette musique, cette mélodie m'interpelle. Elle ne correspond pas forcément à des souvenirs, ou alors c'est carrément inconscient, c'est possible. Mais la musique entre en résonance avec mon esprit, je l'aime beaucoup.
Alors écoutons « Sans toi ».
Avec plaisir.
No, I can't forget this evening, for your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Sans toi, ça s'adresse à l'autre, bien sûr, mais on pourrait presque dire que ça s'adresse à la croix, qu'à quelle que soit la personne à qui on s'adresse, la croix est imparable. C'est l'un des plus grands symboles qui existent. Je crois que c'est l'un des quatre grands symboles qui existent. Alors, vous avez fait un choix tout à fait surprenant, intéressant, parce que finalement, on rencontre la croix sur les chemins, on le rencontre dans sa vie. Il y a le symbole, on porte sa croix. Donc la croix est imparable, elle est au cœur de notre vie. Et vous parlez de la lumière par le mystère de la croix. Alors, présentez-nous ce livre, présentez-nous ce titre, et qu'est-ce que vous nous dites en essentiel ?
Alors, je prends ce livre comme un outil pour celui qui va au-delà du symbole, qui cherche... Parce que la croix, tout le monde sait ce que c'est, une horizontale et une verticale, un croisement, mais il faut aller chercher plus loin. Donc, ayant eu un travail à faire sur la croix, un travail personnel, je me suis heurtée à un problème de bibliothèque, beaucoup de livres qui ne livraient qu'un seul son de cloche, si l'on peut dire. Et moi, je voulais en condenser... donner plusieurs voies, plusieurs directions au lecteur ou au cherchant, et après pour qu'il trouve la sienne. Donc l'idée a germé de faire un condensé facile à lire, suffisamment court pour ne pas rebuter le lecteur moyen, si l'on peut dire, parce que il est dit que beaucoup de livres dans nos bibliothèques de salon, la plupart ne sont jamais ouverts parce qu'ils sont trop importants. Tandis que là, c'est un livre qui est facile, qui donne plusieurs directions. Après, à vous de choisir la vôtre. Mais c'est vrai que la croix, beaucoup de gens la portent au cou, ou sur les murs, et ne savent pas très bien ce que veut dire et ce que peut faire la croix. La croix, c'est un schéma du cheminement de l'être humain qui doit aller d'abord à l'horizontale et puis qui doit s'élever peu à peu au fil de sa vie, au fil de ses expériences et de sa volonté. J'ai voulu interpeller sur cette croix, sur ce symbole des plus simples. Un enfant sait faire une croix. Quelqu'un qui ne sait pas écrire fait une croix. Il n'y a rien de plus simple et pourtant, elle peut ouvrir sur l'univers.
Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de nous rappeler que la croix... dépasse amplement la tradition chrétienne. Si la tradition chrétienne a profondément enrichi la symbolique de la croix, je crois savoir que la première croix de marbre qu'on a trouvée, par exemple, remonte 15 siècles avant Jésus-Christ, en Crète. C'est dire que la croix est quelque chose qui existait bien avant le christianisme et qu'on retrouve la croix en Chine, en Afrique, au Mexique, etc. C'est assez impressionnant.
Comme beaucoup de symboles, on les retrouve au même moment et dans toutes les régions de la Terre, à des époques très lointaines, et la croix en fait partie, bien évidemment, puisqu'elle se trace facilement et qu'elle représente l'homme. C'est la perfection de l'homme dans l'espace. C'est sa projection. Déjà, les bras étendus, nous ressemblons à une croix. Et nos ancêtres l'ont ressenti intuitivement ou d'une façon innée, je le pense, que la croix... donner une direction et un sens à leur vie et était sacré, entre guillemets. Voilà.
Combien y a-t-il de types de croix? La croix de Lorraine, la croix grecque, etc. Vous avez pu recenser le nombre de types de croix qui peut exister?
Il y en a plus de 300 de différentes, plus ou moins avec des choses en plus, des roses, des pointes. Il y en a plus de 300 et quelques.
Alors, qu'est-ce qui est constant dans ces 300 et quelques croix?
C'est le croisement, c'est le centre. C'est la roue cosmique, si vous voulez, aussi. Hein. Donc, c'est énergie, c'est mouvement, c'est projection, émanation. C'est pour ça que ce symbole nous parle et nous oriente quelque part.
Tout à fait. Et vous-même, quand vous avez fini ce livre, vous avez regardé la croix autrement?
Oui, tout à fait. Même si je la porte de temps en temps au cou, parce que je n'ai pas que ça comme pendentif, je ressens son énergie, je vois la direction qu'elle me montre, et elle me donne envie de me surpasser, d'avancer et de m'élever encore plus. Je la prends vraiment comme un schéma à suivre pour un perfectionnement constant.
C'est tout à fait passionnant. Moi qui ai lu votre livre, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai été passionné, parce que ce livre est très clair. Effectivement, pour celui qui ne veut pas s'étendre de trop à travers plusieurs ouvrages, je crois qu'il a là l'essentiel en l'occurrence. Et de ce fait, effectivement, chers auditeurs, la croix, c'est non seulement un référent du christianisme, c'est un référent symbolique au sens le plus fort et le plus majeur du terme, et rappelons que le symbolisme, c'est ce qui réunit, et le diabolique, c'est ce qui sépare. Il n'y a pas besoin du diable, finalement, pour être diabolique. Donc, à travers cette forme de croix, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, il y a toujours un sens profond, et on ne peut pas, quelque part, échapper à la croix.
Tout à fait. Aucun être humain, quelle que soit sa religion, ça n'a rien à voir. C'est un outil pour amener à découvrir le mystère de la croix, comme le dit le titre, et arriver à la lumière. C'est une progression, c'est une direction, c'est une façon de vivre. Il n'est pas question de religion. Évidemment, je l'aborde, c'est incontournable. Hein. Mais il y a beaucoup plus à découvrir, et je pense que à la dernière ligne de ce livre, on comprend toute la puissance et tout le mystère s'en dégage. Et je pense que les gens auront envie de découvrir quel est ce mystère et quelle est cette lumière que l'on peut atteindre par la croix.
Corinne, est-ce qu'il y a encore à notre époque des expressions nouvelles, des formes nouvelles de croix qui surgissent ?
Oui, bien sûr. Alors, la croix est parfois détournée. Donc, le symbolisme change. Certaines croix, on le sait très bien, ont été totalement bannies, comme la Svastika. C'est alors que le symbole, vous le retrouvez en Inde, vous le retrouvez dans des pays, et c'est un très beau symbole. Donc, certaines croix ont été détournées, le sont encore de nos jours. Mais la principale croix, c'est la verticale et l'horizontale, c'est le centre, c'est ce croisement qui est important. Voilà.
Tout à fait. Et je pense, effectivement, vous venez de parler de l'Inde, la croix, les croix ont circulé quasiment dans toutes les cultures. On a parlé de la Chine, on a parlé de la Grèce, on peut aussi parler de la mythologie mexicaine, qui est très riche dans ce domaine. Et selon Jacques Soustelle, qui a été un grand chercheur aussi dans ce domaine, la croix est le symbole du monde dans sa totalité. Je crois que vous partagez cette expression. Alors, si vous voulez arriver à ce stade de notre échange, je vous propose d'écouter un chant que vous allez tous reconnaître, dont la traduction en français, c'est « Baiser de feu ».
Touch your lips, and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good is there trying? What good is there denying? You're all that I desire. Cette fois, I kiss you.
Oui, je crois qu'on peut redire avec Jacques Soustelle que la croix est le symbole du monde dans sa totalité. Donc, je pense que chacun d'entre nous rencontre encore une fois la croix et est invité à y voir autre chose que ce que le symbolisme chrétien a apporté, enrichi, parce que la croix vient quasiment du fond des âges.
Oui, tout à fait. Chacun trouvera son propre centre, sa propre direction. Chacun sera projeté par elle dans l'univers. Nous dégageons tous de l'énergie. La croix sublime et exhale encore plus nos énergies et nous transforme. Tout est symbolique. Il est évident que ce parcours, ce schéma que nous donne la croix, elle nous le propose à nous d'avancer et de déployer son pouvoir.
La lumière par le mystère de la croix de Corinne Augier-Richard aux éditions Liber Faber. Un très beau livre, un très beau cadeau, et j'allais dire presque un livre inévitable, puisque nous sommes là dans l'un des quatre plus grands symboles qui peuvent exister dans nos cultures, donc je vous invite à le lire. Je crois que Corinne, provisoirement, vous allez suspendre votre recherche dans ce domaine pour vous consacrer à Monaco.
Alors, l'idée m'est venue d'écrire un livre sur les travaux d'Hercule, et comme Hercule s'est reposé, d'après le mythe, sur le rocher, pour reprendre un peu ses esprits, pour méditer dans ce havre de paix, parce que la baie de Monaco est abritée des vents, était propice. Donc l'idée d'écrire un petit peu sur Monaco dans l'Antiquité, les 12 travaux, et chaque chapitre sur les travaux sera de détailler profondément, mais relativement simplement, comme toujours, puisque comme je vous l'ai dit, je veux toucher des gens qui n'aiment pas trop lire, justement, mais qui sont intéressés par des mystères. Et chaque chapitre, vraiment, je vais détailler au plus profond chaque symbole que je vais trouver et qui sont dans les travaux d'Hercule.
Parution du livre quand ?
La fin de l'année.
Fin de l'année.
Oui.
Je pense. Édition Liber Faber, c'est
tout
le grand éditeur de Monaco.
Oui, ça sera.
Alors, chers auditeurs, apprenez-vous à découvrir dans ce livre que Monaco, c'est pas seulement une principauté, c'est là où Hercule s'est reposé, et il y a encore la trace très forte. J'espère que vous allez pouvoir faire ouvrir ces traces qui, il me semble, ne sont pas encore ouvertes au public. Alors, vous disiez tout à l'heure toucher, vous preniez le mot toucher. On est touché, mais il y a aussi ne toucher à rien. Je vous invite à écouter Barbara Deschamps, qui nous vient de l'Ardèche, avec une très très belle chanson. Écoutez, ne touchez à rien.
Les cloches de l'église, tu dis qu'elles te rendent fou de leurs notes de musique. Tu voudrais faire cesser toutes les heures du village qu'on te laisse rêver dimanche et bien davantage. Mais je crois que tu as la mémoire courte. L'église était là bien avant ta maison.
Allez découvrir Barbara Deschamps, ne touchez à rien. Ne quittez pas, il va y avoir les informations. Mais dans la deuxième partie, une surprise. Benjamin Lesage, que nous allons avoir en direct au téléphone, puisqu'il est près de Toulouse, pour son livre « Sans un sou en poche, vivre fauché, mais vivre librement ». Alors, à tout de suite. Merci Corinne. D'ailleurs, vous restez avec nous et nous reviendrons sur vos écrits passés et présents et futurs dans l'émission.
Je reste avec vous.
De respecter les fondations.
Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons accueillir Benjamin Lesage. Pour son livre « Sans un sou en poche, vivre fauché, mais vivre libre ». Alors, nous allons avoir Benjamin au téléphone, il est dans la région de Toulouse, et nous allons l'avoir en direct. Mais avant de le prendre et d'échanger avec lui, je voudrais, chers auditeurs, vous lire ce passage de l'épilogue de son livre, car je le trouve très beau et c'est très fort. Benjamin s'en va faire ses 1500 kilomètres qui le séparent de Monaco, et une étrange rencontre force sa détermination. Un soir, au crépuscule, sur une petite route, il dit « Je pédalais furieusement, une légère brise dans le dos, j'étais heureux comme libéré. Je regardais l'horizon lorsque j'ai aperçu un animal sur la route, un puma, au pelage ocre, imposant. Il m'a toisé de son regard, a tourné la tête et reparti de son pas lent et majestueux, les muscles roulant sous la fourrure, puis a disparu dans la brousse. Je suis resté immobile sur mon vélo, hanté par le regard du félin. Tout d'un coup, tout prenait sa place. L'écologie, le stop, la récup, la vie sans argent, tout cela me paraissait logique pour que, à cet instant, il y ait un absolu besoin d'harmonie. Cette harmonie, cet équilibre que j'avais vu dans le regard du puma, que l'oranger du coucher du soleil avait amplifié dans la brise légère qui apportait sa fraîcheur et ce don permanent de la nature, l'évidence était là. Il me fallait désormais vivre au rythme de ce que la nature, les gens, le monde pouvaient me donner librement, selon mes besoins et non mes désirs, vivre heureux dans la simplicité la plus totale. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Benjamin, puis-je me permettre une question ? Quel âge avez-vous ?
Aujourd'hui, j'ai 30 ans.
Et alors, ce goût du voyage est arrivé quand dans votre vie ?
Ça remonte à quelque temps. J'ai été toujours assez passionné par la littérature et donc j'ai dévoré pas mal de livres étant petit, particulièrement des auteurs comme Philippe Labreau, Le Clésio ou Kerouac. Et donc le goût du voyage est né de mes lectures.
Et ensuite, vous l'avez concrétisé, je crois, à travers un programme européen pour les étudiants, c'est bien ça ?
Oui, ça a été le premier déclic au programme Erasmus qui m'a donné la chance, après mes études, de partir aux Pays-Bas pour étudier.
Et de là, vous faites ce projet de voyage à quelques-uns. Vous étiez combien ?
Nous étions trois. Nous nous étions rencontrés aux Pays-Bas en étudiant ensemble. Et nous avions envie de faire quelque chose, de créer un projet, de monter quelque chose d'assez unique. On avait envie de voyager aussi et c'est en expérimentant l'autostop qu'on s'est rendu compte que ce serait chouette de faire un voyage sans argent en stop pour essayer de voyager écologiquement et aussi en harmonie avec le monde, avec les autres êtres humains.
Mais là, Benjamin, vous dépendiez totalement des autres.
Sur ce voyage, oui, c'était un peu le pari. On a toujours tendance à penser qu'on est très indépendant dans notre société. Et donc là, on voulait faire l'inverse, pas avoir un sou et dépendre complètement des autres pour survivre.
Pouvez-vous, Benjamin, nous raconter une anecdote qui vous a beaucoup impressionné au cours de ce voyage ?
Oui, bien sûr. Le Maroc a été un des pays qui nous a le plus marqué. Il y a par exemple cette fois-ci où nous nous sommes retrouvés une nuit à dormir dans un couloir à moitié ouvert, adossé à une montagne. Et quand nous nous sommes réveillés au petit matin, il y avait un plateau de petit déjeuner à nos pieds, avec des olives noires, du pain, des fruits. Et quand la femme est sortie, c'était une femme qui vivait juste à côté, elle a même pas voulu nos remerciements. Elle nous a dit non, c'est tout naturel. Elle nous a donné en plus un seau avec de l'eau tiède pour que nous l'avions.
C'est effectivement quelque chose dont vous devez garder souvenir à jamais, non ?
Bah oui, c'est le genre de choses qu'on n'imagine pas, on pense pas que ça arriverait. Et le pire, c'est que ça nous est arrivé à un autre moment où cette fois-ci, il y avait deux plateaux petit déjeuner. Et nous avons vraiment découvert cette générosité, cette bonté naturelle chez beaucoup de Marocains qui n'hésitent pas à donner. Pour eux, donner, c'est normal.
Mais alors, vous avez eu aussi des moments de découragement ?
Oui, bien sûr. Il y a déjà eu le moment où je me suis fait voler toutes mes affaires au Brésil après avoir attendu 3 jours dans une station essence. Un autre moment où nous avons attendu 5 jours sur une autre station essence où personne ne voulait nous prendre en stop. Et des moments où on n'a mangé que du pain, où on demandait au restaurant, aux boulangeries, au supermarché pour avoir les invendus. Et des fois, dans les journées, il n'y avait que des noms et ça a souvent été difficile.
Qu'est-ce que fondamentalement ce voyage a changé dans votre vie, Benjamin ?
Ouf ! Un peu tout, mais j'aime bien résumer le fait que de partir comme ça, sans le sou, m'a appris fondamentalement à recevoir. Ça a l'air simple comme ça, mais je pense qu'on est un peu tous malades dans nos sociétés civilisées où on a du mal à recevoir. Et c'est un peu dégradant de recevoir. Donc dans ce voyage, j'ai appris à recevoir, à dépendre des autres. Et c'est en apprenant à recevoir que j'ai appris à donner humblement.
Et alors, ça s'est terminé au Mexique, votre voyage, je crois, non ?
Oui, le but du voyage était le Mexique. Et ensuite, moi, j'ai continué de voyager au Mexique. C'est là où j'ai rencontré le puma. Et c'est aussi là où j'ai rencontré ma présente épouse. Et j'ai voyagé encore 2 ans au Mexique comme cela. Et ensuite, un petit peu aux États-Unis avant de rentrer en France il y a environ 2 ans maintenant.
Avec la Mexicaine.
Oui, elle est avec Yasmine et est venue avec moi, oui.
Et vous avez eu un enfant, je crois.
Nous venons d'avoir un enfant, oui. Elle a eu 2 mois il y a 2 jours.
C'est fabuleux. Alors, votre projet, Benjamin, actuellement, présentez-nous-le en dehors du voyage que vous avez fait. C'est un projet...
Donc, ce voyage nous a montré que la vie sans argent pouvait ouvrir la voie au bonheur, mais bien entendu, vivre sans argent, c'est un peu impossible. Il y a toujours de l'argent utilisé. Donc, nous avons maintenant le projet, avec des personnes qui ont voyagé avec nous et d'autres que nous avons rencontrées ensuite, d'ouvrir un espace, de trouver un terrain et d'ouvrir un espace expérimental pour essayer de voir si nous pouvons monter une sorte d'éco-village, donc de construire écologiquement, de faire notre propre jardin, d'obtenir une certaine autonomie et surtout d'essayer d'évoluer sans avoir une dépendance à l'argent. L'argent, il n'y a pas de problème avec, on peut l'utiliser, mais on aime bien l'idée que l'argent n'est pas nécessaire à notre survie, à notre bonheur, et que ce n'est en fait qu'un outil pour avoir, pour répondre à certains besoins. Donc nous avons aujourd'hui ce projet qui s'appelle Eotopia, de fonder un village où il n'y aurait pas d'argent et où nous pourrions vivre tous comme une grande famille.
Benjamin, ce village se situerait dans le sud-est, je crois, hein?
Nous cherchons dans tout le sud de la France parce que, étant végétaliens, nous avons besoin de beaucoup de soleil pour obtenir notre autonomie. Et puis Yasmine étant mexicaine et il y a des Espagnols dans le projet où nous avons besoin de soleil. Mais nous sommes ouverts de l'Italie jusqu'à Toulouse. Nous sommes ouverts à tout type de propositions.
Benjamin, vous voulez nous donner le site sur lequel vous présentez ce projet ?
Le site, oui, c'est simple, c'est www.eotopia.com. eotopia.org.
Voilà, et là on a toutes les informations sur votre projet et je lance un appel à tous nos auditeurs et au-delà de nos auditeurs, à toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Benjamin nous dit que c'est le Grand Sud qui peut l'intéresser jusqu'à l'Italie, donc le Sud-Ouest et le Sud-Est. C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui, merci beaucoup.
Je parlerai de vous dimanche à Corins, qui, Benjamin, est le premier village bio de France. Et comme nous sommes invités par le maire pour un festival de musique absolument extraordinaire, je pense que c'est une des pistes, mais je crois que vous avez la ténacité de réussir, non ?
Oui, nous sommes convaincus et nous savons que nous trouverons le moyen de le faire. C'est juste une question de temps. Et pendant ce voyage, nous avons appris à attendre.
Vous avez un prochain livre en cours ?
J'ai déjà écrit un autre livre qui relate un petit peu le voyage, mais qui va plus profondément sur qui je suis et l'économie du don et tout ce que j'ai découvert pendant le voyage. Et ce livre sera complètement gratuit, donc il n'est pas encore en ligne. Il faut encore que je le peaufine, mais je pense le sortir avant la fin de l'année.
Et on le retrouvera sur votre site, je pense, hein ?
Oui, sur l'autre site, sansunsou.wordpress.com, oui.
Là, répétez, Benjamin.
Tenir au courant.
Répétez-le une autre fois.
sansunsou.wordpress.com.
D'accord, Benjamin. Alors, si vous aviez des jeunes de 17 à 25 ans devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez avec force ?
J'aurais vraiment envie de leur dire que nous sommes maîtres de nos destins. Même si nous sommes jeunes, si nous n'avons pas toute l'expérience, que nous n'avons pas vécu beaucoup de choses, nous sommes maîtres de nos destins. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement ou d'une institution pour réaliser nos rêves. Donc j'ai vraiment envie de dire, il faut se lancer. Quand on a une idée, quand on a une envie, il faut le faire. Il faut se réunir, trouver d'autres personnes qui partagent cette envie et passer à l'action.
Et alors aux adultes, que diriez-vous ?
Aux adultes, j'entre dans l'ère des adultes avec notre enfant. Je pense qu'il faut que nous soyons responsables, qu'il faut assumer nos choix. Et nous avons fait des choix jusque maintenant et il est nécessaire de les changer pour le bien-être de la planète et surtout de tous les autres êtres humains.
Et alors aux seniors, c'est-à-dire aux personnes qui arrivent dans la dernière étape de leur vie, qu'est-ce que vous leur dites ?
Qu'il n'est jamais trop tard pour changer.
Si vous aviez une devise, laquelle vous prendriez, Benjamin ?
Si j'avais une devise, oui, nous sommes le changement.
C'est très joli. Alors écoutez, Benjamin, j'ai choisi pour vous une musique qui vient d'un autre horizon de la France. Je ne vais pas dire quelle est cette musique. Je l'ai choisie pour vous tout à l'heure. Nous allons l'écouter. Gardez l'antenne, puis après je vous dirai qui est derrière.
D'accord, merci bien.
Perso una dama.
sûr, une partie de nos auditeurs ont reconnu Luc Arboga, qui a 40 ans, qui est un peu plus âgé que vous. Mais ce chanteur écrit des chansons qui célèbrent l'amour courtois, autant que la communion avec la nature, ou bien des morceaux classiques, résolument tournés vers l'avenir, qu'il interprète dans sa langue inventée, un mélange d'occitan, d'ancien français, d'allemand médiéval. Benjamin, je crois qu'il fait partie de la même race que vous. Des gens qui annoncent l'amour.
Vous pouvez répéter le nom ?
Luc Arbogast.
Arbogast.
Voilà,
bien,
vous allez voir, c'est des disques absolument époustouflants. Ma fille les connaissait, elle me les a fait découvrir. Et je crois que c'est quelque chose qui va dans le même sens que vous. Vous faites partie de ces aventuriers qui annoncent le nouveau monde.
Très
merci,
bien.
Benjamin.
Mais merci beaucoup à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà. Donc, voilà ce que l'on peut voir, ce que l'on peut découvrir à travers des auteurs dont la presse nationale ne parle jamais. Benjamin, Luc Arbogast est passé, il est connu, mais sa musique vient amplifier le message, je crois, de Benjamin. Et Corinne, vous qui êtes toujours présent dans ce studio, vous êtes aussi habité par la recherche au cœur de votre vie et vous aviez écrit avant ce livre sur la croix un livre qui était aux éditions du.net, je crois, Retenir l'être aimé, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. À force d'entendre dans ma patientèle et ma clientèle et autour de moi, les amis ou des connaissances, répéter les mêmes erreurs dans leur couple, cela m'a donné l'idée de noter au fur et à mesure et d'éditer un petit essai, un petit livre très simple, les erreurs à ne plus commettre, quelques conseils pour essayer de retenir l'être aimé lorsque, ou au début d'une relation, ou alors quand il y a des frictions qui commencent à s'installer. Beaucoup de choses sont à faire. On peut vraiment transformer une relation si on est suffisamment à l'écoute de l'autre, si on n'est pas dans l'amour, je dirais, enfantin, comme lorsque l'on a un jouet et qu'on ne veut pas le prêter, il est à moi, je veux le garder, il ou elle, hein, on le retrouve dans les deux sexes, ce besoin d'être aimé et d'aimer mal l'autre et d'étouffer la relation. Donc voilà.
Est-ce qu'on peut retenir l'être aimé ?
Dans certains cas, oui. Il y a des conseils dans ce petit livre. Lorsqu'on les met en application, eh bien, beaucoup de conflits s'estompent. Beaucoup de choses s'arrangent. Il y a quand même quelques conseils vraiment très pertinents à mettre en place et les choses peuvent s'arranger dans beaucoup de cas, plus de la moitié.
Ça suppose un autre esprit, une autre conception de l'amour, c'est une redécouverte.
Oui, parce que là, en fin de compte, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'amour pour soi-même, ça n'est pas l'amour pour l'autre. Donc il y a toute une façon de voir et d'appréhender les sentiments qui est différente, et je l'explique. Et puis après aussi, il y a nos hormones qui nous font faire des choses, des fois, un petit peu passionnées, et là, nous ne sommes plus aussi dans notre état normal. Donc nous tombons en amour, hein. Il y a des expressions comme ça, je suis tombé amoureux, ça veut bien dire nous ne sommes plus dans un état normal. Voilà.
Il faudrait citer là le magnifique slam de Grand Corps Malade, le cœur, la tête et les couilles qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est un texte magique que tout le monde devrait écouter et s'interroger pour savoir quand l'un des éléments prend le pas sur l'autre, ça ne marche plus.
Tout est équilibre dans la vie. Quand c'est trop, ça ne va pas. Donc le juste milieu en tout, et toujours faire un travail sur soi-même, se poser les questions, ne pas attendre que l'autre change, il faut changer son regard sur lui et sur soi-même.
Voilà, Corinne, nous allons terminer l'émission tout à l'heure ensemble, nous avons un peu de temps devant nous, et je voudrais en profiter pour parler de trois projets. L'un qui est la saison des écrits, si vous allez voir la note de synthèse numéro 11 sur le site, que je vous dirai en fin d'émission, vous verrez présenter cette saison. des écrits. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai consulté des éditeurs, j'ai consulté deux associations, tous à l'unanimité sont d'accord, et la saison des écrits débutera très bientôt, je vous tiendrai informé. L'idée, c'est de mettre en relation des gens qui ont des écrits cachés, qui les emportent un jour, qui les présentent eux-mêmes ou qui les fassent présenter par un autre, parce que je crois que l'écriture est au sens de la vie, et que je doute parfois qu'on puisse vivre et exister sans écrire. Et l'écrit est à la fois une thérapie, un cri et un chant absolument fabuleux. Qu'en pensez-vous ?
Oui, pour moi, en tout cas, je peux répondre déjà pour moi-même. Écrire est un travail pour rassembler mes connaissances, pour mettre mes idées en forme. C'est vraiment un travail sur moi-même, en profondeur, à la base. Je suis toujours en train de chercher, de vouloir comprendre. Je suis toujours interpellée par tout ce qui me paraît mystérieux. C'est aussi écrire, au départ, c'est une volonté. Après, il faut oser. C'est un engagement, parce que ce qui est écrit, ce qui est édité, ne peut plus être effacé. Donc, il faut vraiment s'engager totalement et le vouloir profondément. Donc, c'est un travail en profondeur.
Voilà. Le deuxième projet dont je veux vous parler très rapidement, c'est que chaque année désormais, nous allons avoir une émission composée uniquement par les auditeurs. Cette émission se situera en mai de chaque année, donc l'an prochain, hélas, malheureusement. Prenez contact avec nous et c'est vous, auditeurs, qui concevrez globalement l'émission en nous présentant un livre, en nous présentant un auteur, un éditeur, que sais-je, ce que vous voulez sur l'écrit. Et cette émission sera uniquement, encore une fois, gérée par vous. Et puis le troisième projet, eh bien, c'est de vous dire que nous allons aller à la découverte d'auteurs et d'éditeurs. Par exemple, ce soir, eh bien, nous sommes en émission la semaine prochaine. Vendredi prochain, nous aurons une émission sur les traces de Jean Giono et cette émission va être enregistrée à Manosque dans la maison de Jean Giono et nous allons circuler de plus en plus dans cette région PACA, dans ces trois sous-ensembles pour découvrir des auteurs, pour découvrir des éditeurs, pour découvrir des activités autour du livre et de l'écrit et nous vous en ferons part le plus possible. Alors comme tout n'est pas possible, hélas malheureusement, dans cette édition qui n'a un maximum de 20 émissions par an actuellement, eh bien sachez qu'il y a actuellement 12 émissions qui sont en cours, l'une avec Éric Fotorino sur Écrire, c'est crier, une autre avec le professeur Lejeune, la maladie d'Alzheimer, c'est l'un des plus grands experts de la maladie d'Alzheimer, une autre avec Michel Serres, Pousse, une autre avec Edgar Morin, nous allons la voir, une autre avec Axel Kahn, le voyage de la vie. Nous en ferons une sur les écritures cachées, bien entendu, en dehors de l'émission que vous ferez, vous, chers auditeurs. Nous ferons une émission spéciale « Créer des liens ?» point d'interrogation. Et puis une autre qui sera, à mon avis, passionnante et accessible à tous, c'est « Devenir le philosophe de son existence ». Voilà, tout cela est en cours. Certaines émissions seront mises directement sur le site. Quel est ce site sur lequel je vous invite à aller ? Eh bien, tout simplement, www.attaché.com. Art au pluriel, culture au pluriel, éducation au singulier, .com/, vous y retrouverez toutes les émissions et le site va se renouveler à partir de maintenant, jusqu'à la fin juin. Ce site va prendre une ampleur plus importante encore puisque vous êtes déjà des milliers de personnes à le consulter, mais il va s'enrichir de différentes façons et avec vous. Et la dernière émission du mois de juin, le 26 juin, sera consacrée à Patrick Modiano, prix Nobel, et nous ferons avec Agnès Besson, philosophe. Merci, chers auditeurs, et à bientôt.